Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Dans un texte fameux intitulé « Le corps et l'argent », le philosophe Ruven Augien montre que les préjugés que nous avons à l'égard de la prostitution ne sont pas d'ordre factuel, mais moral. Dans les faits, techniquement si on peut dire, le travail du sexe est un métier comme un autre. Il existe non seulement une continuité, dit-il, entre la prostitution et l'assistance sexuelle aux handicapés, mais aussi entre la prostitution et tous les autres métiers de service dont la finalité est d'entretenir ou de soigner le corps humain, de le protéger, vivant ou mort, de l'aider à satisfaire ses besoins. Certains métiers sont plus proches, comme masseur, kinésithérapeute ou nourrice. D'autres plus éloignés, comme aide-soignant, coiffeur, manucure, pédicure, dentiste, etc. Ce n'est pas parce que le travail sexuel concerne les parties dites intimes d'autrui qu'il est différent. Que dire alors du gynécologue ou du dentiste, argumente Ruven Augien. À la fin, le philosophe montre qu'il y a suffisamment de traits communs entre ces activités pour qu'il ne soit pas absurde d'affirmer qu'ils appartiennent à une même famille. Pour examiner les arguments moraux, il discute ensuite une série de questions qui chacune soulève un problème moral ou politique. Pensez-vous que la promotion de la prostitution à la télévision ou par voie d'affiche serait tolérable? Croyez-vous qu'il serait normal de radier une chômeuse de la liste des demandeurs d'emploi si elle refusait une place de prostituée? Et le classique, aimeriez-vous que votre fille se prostitue? Ou encore, aimeriez-vous qu'on vous traite comme un individu interchangeable, sans aucune valeur personnelle, juste bon à donner du plaisir sexuel? Si on lit son texte en pensant à la prostitution masculine hétérosexuelle, aux escortes boys et autres masseurs érotiques, ses arguments sont encore plus frappants. La liberté de se prostituer, celle d'acheter des services sexuels, devient quasiment évidente. En tout cas, je vous laisse en juger, en lisant ce livre peut-être et en écoutant surtout ces trois hommes qui aujourd'hui ont choisi de proposer des services sexuels et qui racontent leur histoire à Pauline Verdusier.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Romain, j'ai 39 ans, je vis à Thonon-les-Bains, je suis escorte depuis quelques mois. Je propose de l'accompagnement, des moments de plaisir, tout ce qui est lié au bien-être, massage, danser ensemble, des sorties, etc. Avant d'être escorte, je travaillais dans le bâtiment, j'étais échafaudeur. Alors ça me plaisait pas forcément. Je faisais ça parce qu'il fallait travailler, parce qu'il fallait gagner sa vie. Et j'étais célibataire, j'étais aussi un peu libertin. Et puis, certaines rencontres avec des femmes, en fait, m'ont fait prendre conscience que j'avais peut-être des qualités et que peut-être que je devrais le faire, monnayant de l'argent, quoi. Et puis, je me suis un peu renseigné en regardant un peu sur les sites, les agences qu'il y avait et les façons de faire. Donc, je voulais travailler vraiment par une agence aussi qui soit un peu sérieuse, quoi, parce que ça reste quand même un monde un peu où c'est toujours un peu compliqué, quoi. Ça reste de la prostitution quand même, quelque part. Donc voilà, je voulais être bien encadré, bien entouré et pas faire n'importe quoi, c'était important pour moi. Comme j'habite à la frontière suisse, j'ai postulé pour une agence en Suisse, Easy Live. C'est une agence qui propose des profils femmes et hommes à une clientèle plutôt riche, donc c'est vrai que ça me rassure un peu. J'ai aimé aussi le fait que ce soit privé, que je n'ai aucun contact avec les clients, que les clients n'ont aucun contact avec moi, que tout se passe par l'agence. Du coup, j'ai eu un rendez-vous avec la directrice. Elle était bienveillante avec moi, elle m'a bien expliqué en quoi consistait le métier. Et puis les endroits aussi, c'est vrai qu'elle m'a parlé d'une garçonnière, on faisait pas ça n'importe où chez moi. Et j'ai dû m'enregistrer à la brigade des mœurs en Suisse, chez les policiers. J'ai fait ensuite dans la foulée une formation obligatoire d'une journée, où je pense qu'il y a un peu tout, des anciennes escortes, des médecins, des infirmières, et des gens un peu de la police, qui nous encadre un peu au début par cette réunion d'information pour nous dire justement des lieux, des endroits, des informations pour se soigner, pour se défendre si jamais on avait des problèmes, et des explications un peu sur notre métier aussi. Donc voilà. Alors mon premier rendez-vous, c'était un couple suisse qui m'avait réservé donc pour 2 heures. Le but étant que je sois leur soumis. Et donc, quelques heures avant le rendez-vous, la directrice de l'agence m'appelle en me disant que je ne serai plus seul, mais qu'il y aurait une femme escorte de l'agence qui m'accompagnerait pour ce rendez-vous. À l'arrivée, c'était le mari qui nous avait reçus et qui nous a briefé en nous disant que sa femme n'était pas au courant qu'il fallait qu'on joue le rôle d'un couple marié et qu'il nous avait rencontrés sur des petites annonces. Il ne voulait surtout pas qu'elle sache qu'on soit payé, quoi. Donc voilà. C'était assez amusant, il fallait jouer le rôle, quoi, de mari avec cette charmante femme que je ne connaissais pas du tout. Et ça s'est très bien passé. Ce genre de jeu, ce genre de petit scénario, ça me correspondait, c'est ce que j'avais déjà fait. Par contre, pour le coup, avant, c'était un partage, et là, j'avais vraiment envie de les satisfaire plus qu'avant, quoi. Puisque j'étais payé. Et de récupérer l'argent en fin de travail, non. J'ai pas eu d'a priori ou de mauvaise réaction par rapport à ça, mais je l'ai plutôt bien accepté, en tout cas. Je savais que c'était ce que je voulais faire. Mais tout de suite. J'ai senti la femme et le mari très heureux. Ça m'a valorisé. C'est comme si on faisait un travail et que vous avez un résultat à la fin. Comme avant, quand je faisais de la construction, que je montais mes échafaudages. Quand j'avais fini, j'étais content d'avoir monté mon échafaudage. Ben là, j'étais vachement, mais vraiment, vraiment très, très heureux de leur avoir donné du plaisir, d'avoir répondu à leurs attentes, en tout cas, en gagnant mon salaire. Donc, ouais, c'était sympa. Ouais. Pour mon deuxième rendez-vous, je suis tombé sur un couple condoliste. C'est-à-dire, c'est le mari qui offrait un escorte à sa femme et lui ne participait pas, mais regardait. Ça s'est super bien passé. J'ai eu un retour pour ma deuxième cliente. Elle répond à l'agence. Bonsoir, je n'ai pas de mots pour décrire, mais c'était top. L'escorte Romain correspond bien à votre petite vidéo. Et vous devriez l'essayer. On ne dirait pas, mais il assure. Il est increvable. Ça me fait plaisir. Ça me flatte beaucoup même. Surtout des clients de bonne qualité aussi. C'est des clients qui ont du savoir-vivre, qui ont une certaine classe sociale, des moyens, qui pourraient se payer un peu n'importe qui. Et pour moi, c'est très valorisant, quoi. Parce que justement, je ne viens pas de la même classe. J'étais ouvrier, donc que des gens d'un milieu riche me complimentent comme ça, prennent du plaisir après nos rencontres. Ouais, ça me fait du bien, quoi. Ça me valorise, quoi. Ouais. Je suis content. Je vis dans un très petit studio, donc à chaque rencontre, quand je vois les hôtels et les endroits dans lesquels je suis emmené à rencontrer mes clients, j'en prends plein les yeux à chaque fois, pour être honnête. Ouais. C'est... c'est magnifique. C'est peut-être pas des endroits où j'aurais pu aller, me rendre ou me payer, tout simplement. Donc il y a ce côté-là aussi sympa de pouvoir profiter un peu de ça. Ouais. Je prends mes rendez-vous très à cœur. Je fais beaucoup de sport. Je m'entraîne tous les jours. C'est mon atout. J'ai eu aussi des clients qui parlaient uniquement anglais. Donc avant la rencontre, toute la semaine, c'était cours d'anglais pour pouvoir être au top et pour pouvoir se comprendre. Il faut s'adapter aux situations, aux gens, selon leurs humeurs. C'est des clients, selon ce qu'ils veulent, ce qui les amuse, ce qui leur fait plaisir. Donc on pourrait croire que un gigolo, voilà, passe du bon temps avec des femmes. C'est pas forcément comme ça qu'il faut voir les choses. C'est vraiment, on est vraiment à disposition des clients et c'est leur plaisir avant tout. Par exemple, j'ai rencontré une femme qui m'a demandé mes services qu'il y avait une ablation à un de ses seins. Donc pour elle, c'était un peu compliqué. Elle avait pas eu de rapport, justement, par rapport à son opération qui la gênait, où elle se sentait pas très bien, quoi. Puis voilà, elle voulait se sentir plus en confiance et puis voir un peu si tout fonctionnait encore, son pouvoir de séduction, si tout marchait tout bien, quoi. Et après le rendez-vous, j'ai senti en tout cas qu'elle était satisfaite et voilà, qu'elle m'avait dit que ça lui avait donné confiance en elle et qu'elle avait pu retrouver au fur et à mesure sa féminité en tout cas. C'est d'ailleurs l'un de mes meilleurs souvenirs, je pense. Ouais. J'ai l'impression d'être comme un petit docteur en fait, comme un docteur et de soigner certaines personnes. Ça me dérange pas de rendre service avec mon corps. Ouais. Parfois j'ai l'impression que certaines femmes ont besoin qu'on les écoute. Maintenant avec le monde dans lequel on vit, les hommes ont peut-être pas assez de temps, plus trop le temps de les écouter. Donc il me plaît de pouvoir les aider en tout cas à ce qu'elles se retrouvent. Je suis quelqu'un de très solitaire. J'aime ma solitude, c'est pas une contrainte, au contraire, c'est un choix. Mais c'est vrai que mes clients sont un peu... ça rompt un peu ma solitude comme ça. C'était ce que je recherchais dans le libertinage. Comme je n'ai pas d'amis, c'est un peu mes moments d'amitié à moi que je partage avec eux. Ouais. Je ne parle de mon métier à personne, c'est mon petit jardin secret. J'ai peur des clichés, j'ai peur que l'on me juge ou qu'on me voie différemment, quoi. Donc je garde ça pour moi parce que je pense pas que les gens soient prêts encore, soient assez ouverts, quoi. Ça m'a permis de sortir du travail classique. Pour l'instant, j'ai à peu près 2 rendez-vous par mois qui me permettent de régler mes factures et de pouvoir vivre confortablement. Ça me permet d'avoir plus de temps pour moi, de pouvoir faire plus de choses. Donc ça me permettra en même temps, justement, je prends ça aussi comme un peu un tremplin, en essayant de pouvoir aussi mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir faire des projets, comme par exemple être coach sportif et pouvoir travailler dans le bien-être des personnes. Je continue à m'entraîner parce que voilà, c'est bon pour la santé et du coup les clientes attendent de moi que je sois performant et top, donc ça me pousse à continuer à faire tout le temps du sport, à faire attention à moi, donc et bien devant la clientèle, donc ça me permet à moi de faire des efforts dans ma vie de tous les jours. J'aime ça. J'ai vraiment trouvé mon chemin, je pense.
Moi, je m'appelle Andy, je suis gigolo en Belgique. Ce que moi, j'essaye de donner aux femmes, c'est qu'ils ne trouvent pas ou à la maison dans leur mariage ou quand ils sont seuls. C'est de leur donner vraiment une connexion intime et de me consacrer complètement à leur plaisir et de ne pas mettre le focus sur la mienne. Il y a déjà assez longtemps, je crois une quinzaine d'années, j'ai vécu 2 petites aventures qui était quand même déjà un petit peu un signe que je pouvais faire ceci. La première, c'était une femme, une copine, et elle était mariée avec son premier copain. Et puis là, au lit, ça marchait plus tellement bien. Et comme on s'entendait super bien, et moi j'étais seul à ce moment-là, elle m'a demandé, ça te dit qu'on l'essaye, quoi? Je dis, ok, ça va, pourquoi pas? Parce qu'elle était jolie, elle était gentille. Et puis on a passé une journée mais vraiment géniale, quoi. Et ça, là, c'était la première fois qu'une femme me disait, « Ah, oh, mais dis, zut, Andy, c'est génial, tu devais demander de l'argent pour... » Et puis, une deuxième histoire, c'était une autre copine à moi qui était en couple déjà pendant, je crois, 5 ou 6 ans. Et puis, à un moment, elle me téléphone et dit, « Andy, il faut qu'on se voit, mais vraiment d'urgence. » OK, peut-être il y a quelque chose qui s'est passé. » Et puis, elle me raconte que sa relation s'est terminée. Elle me dit qu'elle était en train de chercher un amant. Mais de nouveau, on a passé vraiment une nuit géniale ensemble. Et là, c'était la deuxième fois qu'une femme me disait, bah, « Dis, c'était vraiment génial, il faut que tu demandes de l'argent pour, il faut que tu le fais professionnellement, quoi. » Après les deux petites aventures avec mes deux copines là, ben, j'ai rencontré l'amour de ma vie, c'était ma femme. Mais puis après une année d'un mariage, elle a eu un problème médical, ce qui fait qu'elle ne pouvait plus avoir des rapports sexuels sans qu'elle avait beaucoup de mal. Mais elle m'a dit, Andy, je comprends que tu as des désirs sexuels, tu as des besoins masculins. Si tu veux, tu te cherches une copine avec laquelle tu sais le faire, ou tu payes pour, tu vas visiter un prostitué. Moi, je trouvais que c'était pas du tout respectueux vers elle. Je me sentais vraiment coupable, alors je l'ai pas fait. Mais comme la situation continuait, ben, c'est vrai que ça m'ennuyait, quoi. Et puis, à la fin, elle m'a dit, mais pourquoi tu te fais pas payer pour? Parce qu'elle connaissait les deux histoires que je l'avais racontées. Faut pas te sentir coupable parce que tu gagnes de l'argent avec. C'est comme quelqu'un qui va travailler dans une usine, quoi. Et là, comme j'avais l'expérience dans le développement des sites web, ben, je me suis fait un site web, je mis des annonces et c'est comme ça que j'ai commencé à faire ce métier. Mais j'étais vraiment assez nerveux et je me suis acheté un deuxième téléphone pour avoir les coups de fil séparés. Mais je te jure, les premières fois qu'on te téléphone, ben, tu sautes jusqu'au plafond, quoi. T'es nerveux, c'est normal. La première fois, c'était une femme qui n'avait plus eu de rapport sexuel pendant 15 ans. Elle était vraiment tout à fait, disons, morte, point de vue sexualité. Pour elle, c'était aussi assez nouveau. Elle ne voulait pas me voir chez elle, à sa maison. Et puis, on a décidé de se rencontrer dans une chambre d'hôtel. Elle m'a attendu dans le bar. On a bu un petit verre, mais elle a commandé une bouteille de champagne. Moi, j'ai tout de suite proposé de dire, bon, est-ce que ça te va si on prend la bouteille de champagne dans la chambre? C'est quand même plus facile. Et là, dans la chambre, ben, je l'ai tout de suite pris dans mes bras et ça allait tout seul. Après ce rendez-vous, c'est clair que j'ai appelé ma femme. Je l'avais promis d'ailleurs. Moi, j'étais vraiment mais tellement excité. J'étais un petit peu content comme un petit enfant du fait que c'est bien passé, quoi. Et du fait que j'ai eu mon plaisir en me faire payer pour ça. Ben, ça m'a encore donné un kick, un boost extra, c'est clair. C'était très facile à organiser avec l'autre partie de ma vie. 6 soirées ou 6 après-midi par mois, c'est facile à organiser. Et puis à la fin, on a même organisé dans mon appartement où je vivais, on a organisé une deuxième chambre qui était vraiment fait pour recevoir des gens.
Et votre femme acceptait d'avoir cette chambre où vous receviez des femmes?
Oui, tout à fait. Ça arrivait même souvent qu'elle était à la maison quand je recevais des femmes. Et je dois dire, pour moi, au début, c'était pas facile de le faire parce que je savais que, ben, de temps en temps, les femmes font des bruits, ils commencent à crier ou quoi que ce soit. Au début, je demandais toujours à elle, dis, va dans la ville, fais quelque chose. Mais à la fin, ben, de plus que ça arrivait, de moins que j'avais quand même des sentiments de culpabilité. Et là, bon, de temps en temps, elle était là dans le living et moi j'étais dans la chambre et puis voilà, ça allait quoi. Ce qui est drôle, c'est que après, elle me demandait comment c'était, comme une femme qui demandait à son épouse qui venait du travail comment c'était son journée de travail, quoi. Et ce qui était très beau de sa part, c'est que quand par exemple je disais, fou, c'était vraiment un rendez-vous génial, j'ai vraiment pris mon pied, j'ai vraiment bien aimé. Alors, elle était vraiment super contente pour moi. Elle me disait, fou, mais je suis vraiment content pour toi que ça t'a plu, quoi. Alors, ça montre quand même qu'elle m'aimait bien, parce que sinon, ça ne marche pas. Je me souviens d'un rendez-vous avec une femme et elle m'avait fait un booking d'une heure chez moi. On est arrivé dans l'appartement et puis je demandais si elle voulait encore boire quelque chose. Non, elle n'avait pas besoin. Elle était juste là pour le sexe. Puis alors j'ai montré la chambre et j'ai dit bon, moi je vais quand même vite chercher quelque chose à boire parce que j'avais vraiment très soif. Et je reviens de la cuisine et là elle se trouve déjà sur mon lit, tout à fait déshabillée, à poil, nue. Elle m'a vraiment arraché les vêtements. On a vraiment baisé pendant une heure et j'étais vraiment là. Je dis mais allez, c'est quand même bizarre. Normalement c'est quelque chose pour lequel l'homme paye à une femme pour vraiment le sauter dessus. Et là, je suis là, dans ma chambre, dans mon appartement, de sauter à une femme, et elle va encore me payer pour. Et c'était vraiment un bon numéro, quoi. C'était vraiment génial. Mais c'est bizarre. Mais je dois aussi avouer que c'est aussi un travail. Parfois, ça arrive qu'une femme ne m'excite pas du tout. Mais ça arrive aussi qu'il y a des femmes, techniquement, avec tout respect, qui sont vraiment nulles. Et il y a des femmes, souvent, ils ont aussi envie de faire des trucs oraux ou de le faire avec leurs mains. Mais de temps en temps, ils sont tellement mal en faisant qu'ils me font vraiment mal, que j'ai vraiment l'impression qu'ils vont m'arracher le zizi, quoi. Et quand tu rencontres ces femmes plusieurs fois, qu'après quelques rencontres, elles se sont développées vraiment jusqu'à des artistes dans le lit, qui sont vraiment devenus vraiment bien, quoi. Beaucoup d'hommes, ils devaient aller à l'école pour apprendre comment il faut donner du plaisir aux femmes. Il y a beaucoup d'hommes, quand ils font l'amour, c'est seulement le zizi qui joue avec, mais pas la tête, et ils sont pas là avec le cœur. Et ça, il y a beaucoup de femmes qui manquent ça, qui recherchent ça, et ils recherchent quelque chose de plus profond, et plus réel, et plus vrai, vraiment une connexion chaleureuse, et j'essaye de leur donner. Il y a des femmes que je vois souvent, et je crois que la femme qui m'a contacté le plus, je crois que j'ai fait une quarantaine de rendez-vous avec elle. Alors, dans ce cas-là, on se connaît très bien, ce qui donne aussi souvent des trucs un petit peu ennuyeux, parce que c'est bien clair, quand on se connaît tellement bien, ils vont te voir un petit peu comme un copain, ils vont aussi te contacter, pas pendant les rendez-vous seuls. À la fin, ils vont aussi trouver qui tu es en réalité, et ça devient de plus en plus privé, et voilà, là, je préfère de couper. Il faut toujours savoir que je donne un service aux femmes, mais je suis pas amoureux. Je donne un sentiment, j'ai beaucoup d'amour à donner, et quand je suis avec quelqu'un, je donne au minimum l'impression que je l'aime bien. Mais quand je retourne chez moi, c'est pas que je dis « Ah, je veux le revoir, ah, elle me manque », non, c'est fini. J'aimerais continuer encore un petit peu, tant que je prends du plaisir là-dedans, et surtout comme maintenant, comme je sais choisir un petit peu mes clients, ça me plaît bien. Et récemment, j'ai même eu mes premiers clients aussi en France, à Paris, et ça m'a beaucoup plu. D'abord parce que les femmes qui parlent le français, je trouve que c'est très érotique. Et comme c'est un petit peu l'aventure de te faire payer pour aller à Paris, de Flandre, et puis là, de passer une nuit de rêve, bah, et retourner, être payé pour, bah, qu'est-ce que tu veux de plus?
Je suis accompagnateur de l'intime. C'est de l'accompagnement sexuel pour des femmes qui ont perdu confiance en elles, qui ont pu être abusées, en perte de plaisir, de libido, qui ont besoin de se reconnecter aux hommes, qui n'ont plus confiance aux hommes. Dans les relations que j'avais avec mes précédentes compagnes, est ressorti que j'avais des mains en or et que ça serait bien que je les utilise. Et donc j'ai commencé par me former en massage, divers types de massages, suédois, thaïlandais, je suis parti en Thaïlande pour me former, du massage au bol sonore tibétain également, donc du massage beaucoup plus intuitif. Et je me suis inscrit ensuite, du coup, à une formation de massage tantrique avec une certification à la clé. Et lors d'un week-end de coaching organisé par un de mes amis, j'ai Pascal, ma première cliente, qui est venue me rencontrer, qui est venue en discuter avec moi. Elle m'a parlé de son vécu, de ses viols, de son âge, de la pauvreté, de la relation sexuelle dans sa vie amoureuse. Et puis, on s'est donné rendez-vous pour un premier massage, en fait, un massage tantrique. Et voilà, et ensuite ça s'est enchaîné tranquillement vers de la sexualité qui était désirée par Pascal. Donc là, c'était un rendez-vous de 3 heures. Évidemment, elle avait la possibilité de dire oui et de dire non à chaque moment. On a commencé par un massage tantrique avec un salut, des ambiances, des bougies, une atmosphère qui amène à la sensualité, à la douceur, au lâcher-prise. Voilà, et puis en fait, après 1h30 de massage, dans une position qui est particulière, parce que dans le massage cachemirien, il y a des positions particulières, et à un moment donné, je fais relever Pascal pour glisser mes jambes en dessous, pour avoir bassin contre bassin, en fait. Et ce que j'ai appris en tantra, c'est à présenter mon sexe, pour être accueilli par le sien, et non moi la pénétrer, en fait. Ça veut dire que, quand j'avais l'érection, j'ai présenté mon sexe devant le sien, et puis je l'ai laissé m'accueillir, m'aspirer. En fait, c'est difficile à croire, mais c'est exactement ce qui se passe, en fait. Juste laisser faire les choses et ressentir ce qui se passe. Et nous deux, on a vécu quelque chose que même moi, j'avais jamais vécu. C'est qu'on a eu l'impression, et je sais que c'est très spirituel aussi, mais d'avoir réparé les hommes et les femmes de la Terre, comme si on avait fait l'amour pour les autres, en plus de nous-mêmes. Et ça, c'était assez hallucinant, en fait. Et j'associe en plus dans mon accompagnement de l'éducation sexuelle avec des bouquins qu'on lit ensemble et qu'on pratique ensemble. En fait, il y a vraiment, dans ce que je propose en plus de la théorie, de la pratique. Ça veut dire qu'on va discuter d'un cuni, on va discuter d'une fellation, on va discuter d'une sodomie, on va discuter des positions, on va discuter du fonctionnement de l'homme, du fonctionnement de la femme. Mais effectivement, la difficulté, comme ce que je propose me demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, je ne peux pas accompagner beaucoup de femmes à la fois. Ça veut dire que je me suis fixé 2 femmes par mois, et que, justement, par rapport au temps que je propose, par rapport aux résultats, ça va coûter de l'argent, effectivement. Et j'ai envie de développer mon activité vers des femmes d'affaires. Et ce que j'entends vers femmes d'affaires, c'est des femmes qui vont pouvoir s'offrir mes services. L'idée, elle est de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir proposer à d'autres personnes des tarifs beaucoup moins chers, ou offrir certains de mes services peut-être en conférence ou même en accompagnement une fois par an. Voilà, mais j'ai besoin de me sécuriser. Je fais pas ça dans mon coin, je commence à en parler en Suisse, à mes enfants, à mes parents, à des avocats, à des psychologues. J'aimerais créer un institut pour former des hommes à ce que je fais. J'aimerais éduquer les hommes à la compréhension des femmes. Et j'ai une belle image qui me vient, c'est déjà de regarder le sexe, de se rendre compte que le sexe de l'homme est à l'extérieur et qu'une femme, le sexe est à l'intérieur, comme un temple sacré, comme une grotte, ou simplement l'image d'une maison. Une femme, quand elle est bien dans sa maison, elle a pas envie que quelqu'un rentre en courant, en débarquant, à l'improviste. Elle a pas envie que cet homme rentre avec des bottes pleines de boue. Elle a pas envie qu'il rentre avec violence. Et pour moi, le sexe d'une femme, c'est un accueil. C'est pas une pénétration. On sonne quand on rentre chez quelqu'un. On lui demande si on peut rentrer. On propose. Et je crois que la grande différence pour moi primordiale, c'est de se rendre compte de ça. C'est un métier, effectivement, comme un métier passion où, quand je fais du bien à l'autre, ça me répare aussi au fur et à mesure de mes années. Je vois à quel point maintenant ce métier m'honore aussi et me rend heureux, en fait.
11 de la noche todavía no contesta. 1 de la mañana todavía no hay respuesta. 2 de la mañana me dice que está dispuesta. 3 de la mañana yo te tengo una propuesta. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. Bebé, ¿cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. Él no va a extrañarte, tampoco va a pensarte. Dice que está ocupado en cosas más importantes. La nube que no deja ver el sol brillante.
C'était Homme de joie, 3 histoires racontées par Pauline Verdusier, réalisées par Clémence Grosse. Merci à Romain, à Andy et à Giovanna. C'est Camille Richir, l'attaché de production des Pieds sur Terre cette semaine, et Lorenzo Cucchiaro, notre stagiaire.
Maluma, baby, 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 baby.